Avec DAZN, streamez tous les matchs de Ligue 1 McDonald's. 8 matchs en direct et 1 en décalé chaque week-end de championnat. Suivez également en exclusivité l'intégralité de la Betclic Elite en basket. Toute l'intensité du MMA avec les saisons PFL et Bellator. La Ligue des champions féminines de l'UEFA et d'autres compétitions prestigieuses. DAZN, c'est toute la Ligue 1 McDonald's. Tous les matchs, tous réunis, seulement sur DAZN. Pour vous abonner, téléchargez l'app ou rendez-vous sur dazn.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Matière préférée, c'est les maths. 38 par 3, ça doit faire 114.
Je suis un matheux.
Je sais pas ce que c'est une moyenne.
J'ai mon bac.
Il y a des salaires de ouf.
Je suis très bon en maths, t'en fais pas.
32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. Je vais aller, j'ai perdu.
3 fois 90 minutes, verra-t-il, le calcul du SM.
240.
Ah oui, bien sûr.
240.
J'allais dire 10 fois plus. Alors, très précisément, c'est 7 fois plus. 5 fois 3, ça fait bien 21.
Bien, Daniel.
Bravo. Ouais.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est oui, l'after est là, comme tous les soirs, sur RMC, jusqu'à minuit. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, on est ensemble bien sûr jusqu'à minuit et demi. Je rectifie pendant toute la durée de l'Euro, la libre antenne dans la foulée, vous le savez, avec Nico Villas, notamment jusqu'à 1h30 du matin. Julien Cazard sera là également. Avec ce soir autour de la table, Florent Gautreau. Salut Flo.
Salut à tous.
Avec le Michel Simès à peu près. Monsieur Daniel Riolo est avec nous. Bonsoir Daniel.
Bonsoir les amis.
Plutôt Docteur Maboul.
Docteur Maboul, pas mal aussi.
Mais depuis le début, hein, on était un peu.
Et c'est d'autant plus Docteur Maboul que maintenant dirige. Mbappé va jouer.
Alors, doucement.
Sûr.
Non, il peut, en fait, 100%.
C'est pareil, toi.
Il peut.
Écoute, si je joue demain soir, Maboul, je ferme le cabinet. J'arrête, cette carrière.
Ne dis pas ça, parce que ta carrière, quand elle a duré 10 jours, c'est fort.
C'est une carrière de médecin, c'est compliqué, c'est beaucoup d'études. Hein, quand même.
7 ans d'études, 10 jours de carrière.
J'ai tenté une impro, tu vois. J'ai tenté une impro.
Là, écoute,
en même temps, on était en déplacement quand on a ouvert le cabinet.
C'est vrai.
Je peux le faire à Grenoble demain soir.
Tu l'as fait à distance.
On peut loin. Demain minuit, demain 23h, il peut être
à distance, sans radio, sans aucun support, sans rien voir.
Si, il y avait des photos.
Oui, mais t'as pas la radio, les photos.
Non,
oui,
les radios, il y a les photos.
Bon, en tout cas, les gars, tiens, avant qu'on parle des matchs de la journée, composition probable des Bleus qui vient de tomber, envoyé par la cellule équipe de France à Paderborn, camp de base des Bleus. Mike Maignan dans le but, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Kanté, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Thuram.
Bah, je croyais qu'il jouait Mbappé.
Composition probable.
Ah,
toi, t'as dit que c'était foutu pour Mbappé jusqu'à la fin de l'Euro quasiment.
Non,
j'exagère évidemment. Non,
bon, pas abuser non plus.
Alors, messieurs, ce soir, bien sûr, on va débriefer Espagne, Italie avec Fredo qui est ici. Bonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Victoire de l'Espagne et avec Johan Crochet. Bonsoir, Johan.
Bonsoir, tout le monde.
Ouais, un bonsoir beaucoup moins énergique, j'ai l'impression, sur ma gauche que sur ma droite.
Bah oui, pour le coup.
L'Angleterre est en colère également. L'Angleterre n'en peut plus de Gareth Southgate et pas uniquement Julien Laurence. Pluie vague de critiques contre le sélectionneur anglais. Comment est-ce possible de faire aussi peu avec une telle escouade? Julien Laurence sera avec nous pour appuyer ses propos et ses critiques, bien sûr, après le nul des Anglais face au Danemark. Et puis, on parlera rapidement aussi du nul entre la Serbie et la Slovénie. L'équipe de France, bien sûr, au programme. Veille de match face aux Pays-Bas. On parlera de Kylian Mbappé. On écoutera le sélectionneur Didier Deschamps. On évoquera cette composition probable ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre Rondeau, notre spécialiste question éco football, sera avec nous. Hein. Il a suivi les auditions aujourd'hui des dirigeants de CVC au Sénat. Il a notamment été question du salaire de Vincent Labrune. Qui le paye? Comment? Quelle part? On vous en dit plus après minuit avec une séquence lunaire. Voilà comment on peut la qualifier. Ce sera après minuit. Ah ouais. Vous nous appelez au 32-16.
Incroyable. Ouais.
Le hashtag RMC Live sur Twitter, bien sûr. L'application de RMC Sport Direct Studio. Et nous sommes, vous le savez, en direct sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, vous abonner, commenter dans le chat. C'est parti. Jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, donc évidemment c'est la magnifique impression laissée par l'Espagne ce soir. Je pense que quand on aime le foot, c'est un régal de voir une équipe jouer aussi bien. La deuxième, bon, c'est peut-être un débat perso, mais c'est quand même assez frappant quand on connaît l'histoire et la culture de ce pays en tournoi. Je pense que j'ai vu peut-être le pire match de l'histoire. Je pense qu'en tournoi, j'ai jamais raté un match de cette sélection. Je n'ai jamais vu l'Italie aussi faible de toute ma vie. Donc voilà, c'est quand même un choc. quand tu sais la culture, l'histoire de cette sélection. Et le troisième point, c'est l'Angleterre, parce que ça va faire débat, évidemment. Et moi, je veux bien taper sur Southgate, mais évidemment, il est très dur à défendre, parce qu'on sait tous qu'il est mauvais. Mais à un moment, il va falloir quand même que les joueurs anglais se regardent dans une glace aussi. Parce que l'implication, ce que tu fais sur le terrain, ok, est un minimum. L'entraîneur, il est responsable. Mais toi, tu cours aussi. T'as le droit d'être un petit peu responsable. Et les joueurs anglais, franchement, m'ont fait de la peine, cet après-midi.
Julien sera avec nous à partir de 23h30. Flo.
Ouais, j'ai pas trois points radicalement différents. Hein. L'Espagne merveilleuse. Je dirais que à part le côté collectif que j'aime beaucoup, il y a quand même des individualités dingues. Fabien Ruiz fait un début d'Euro incroyable. Nico Williams aussi. Pedri, même s'il a pas été efficace aussi, ça fait beaucoup de bons joueurs. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui se détache, même par rapport à l'Allemagne, c'est l'équipe qui se détache depuis le début de cet Euro pour plein de raisons. La honte pour l'Italie. Moi, c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça. L'humiliation, les olé à un moment donné dans le public. Huit arrêts pour Donnarumma, je crois, dans ce match. Et puis l'Angleterre, effectivement. Alors moi, je reste quand même sur ce qu'avait dit Julien Laurent. C'est ce qui est incroyable, c'est que dès que l'Angleterre marque, elle s'arrête de jouer. Et aujourd'hui, comme elle a marqué tôt, elle s'est arrêtée de jouer très tôt. Et comme disait Trust à l'époque, qui était mon premier groupe phare, Angleterre, Thatcher te coûte cher, disait Trust. Et bien là, c'est Angleterre, Southgate te coûte cher.
Magnifique, bien préparé. C'est trois points très préparés de Flo Gautreau. On va les développer, ceux de Daniel également, jusqu'à minuit et demi, bien sûr. Espagne-Croatie 1-0, Calafiori. Donc, encore un but contre son camp. Je crois que c'est le cinquième depuis le début de l'Euro. Sixième début de l'Euro, depuis le début de l'Euro. Dès la 55e minute de jeu, je disais en préambule, l'Espagne est déjà qualifiée. Assurée aussi, c'est important de terminer premier.
Premier, elle jouera dimanche prochain, dans 10 jours, contre un troisième de groupe. Donc, contre un des meilleurs troisièmes. Donc, c'est
donc possibilité de faire tourner tranquille.
Lundi soir, ça va tourner, bien sûr.
Quand tu vois Fabien Ruiz qui termine avec des crampes et il a déménagé. Ouais, et de toute façon, Rodri, je crois, suspendu.
Il est suspendu. Et de toute façon, Rodri avait commencé cet Euro en disant je termine crevé de la saison. Donc,
ça va faire du
voilà, bon. C'est. Moi, je suis. Je ne m'attendais pas à ça quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre au sein de cette équipe. Tous les gens, les collègues espagnols qui sont au cœur de la sélection rapportent qu'il y a un truc qui est en train de se passer entre les jeunes et les cadres et les vieux, entre un sélectionneur qui a de cette intelligence, Luis de la Fuente, d'être très peu interventionniste, d'être un peu chiant, on en parlait avec Flo Germain, un peu chiant en conférence de presse.
C'est
l'eau très tiède, mais c'est-à-dire que, voilà, t'as des joueurs, quand tu vois, moi je l'ai souvent évoqué, mais Carvajal, symbole du Real, le vieux symbole du Real, et le jeune espoir du Barça, comme Lamine Yamal, comment ils s'entendent, comment ils célèbrent les buts ensemble. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et donc, l'Espagne commence à rêver. Je vois le titre de As ce soir, là, c'est Espagnol puro arte. Ça veut dire, c'est une expression qui veut dire, c'est de l'art pur, en fait.
Excuse-moi s'ils se mettent pas à rêver
bien
là.
Sûr. Après bien sûr.
Le premier match, c'est le deuxième match.
Mais c'est sur ce soir parce que c'est l'Italie. Et ce que je disais au début de la retransmission, c'est que s'il y a un grand pays qui est respecté pour le foot en Espagne, c'est l'Italie.
Donc, pour eux,
battre l'Italie, c'est quand même quelque chose. Surtout, c'est la manière.
Tu les as pas battus, tu les as surclassés. La chose qui fera mal à l'Espagne. L'efficacité.
Ouais, parce qu'il y a cette occasion énorme.
C'est un problème qu'ils ont eu souvent ces dernières années où tu te dis, s'ils mettent tout dedans, ils mettent des raclées à tout le monde. Ouais. Même à la dernière Coupe du Monde, ils étaient moins efficaces. C'est ce qui leur a
fait très cher. Mais là, ce soir, c'est
ils dominent tout le temps.
Le seul mais ce soir, c'est maintenant, beaucoup d'occasions.
Maintenant, il y a des équipes qui pourront emmerder l'Espagne beaucoup plus que l'Italie. C'est des équipes qui seront capables de mettre une dimension athlétique.
Oui. Exemple la France.
Oui. Exactement. J'ai pensé à ça tout le match.
Bien sûr.
Je me suis dit que Yamal et Williams sont des joueurs excellents.
Mais tu peux mettre des coups de coude.
Mais face à des latéraux comme la dimension athlétique que peut proposer la France dans le tournoi de ce genre. Eux peuvent les emmerder, assurément. Après, si ça commence parce que l'Espagne, dans les 5 premières minutes, transforme une occasion, ils rendent le match compliqué parce que la France doit sortir.
Pas partout, Daniel. C'est-à-dire que, dans la compo de l'équipe de France et la défense, tu vois, j'aurais plus confiance dans un Théo que dans un Koundé pour aller mettre la pression. En ce sens, il faudra voir, on n'en est pas là, s'il y a une compo, ce sera important de voir qui tu mets dans ces cas-là. Mais bon, effectivement, tu as raison.
Une dimension athlétique qui emmerdera une équipe technique comme l'Espagne. Ça, c'est certain.
Mais ce qui est assez. juste par rapport à ce début d'Euro, ce qui m'a frappé sur les matchs et les tendances qu'on avait, c'est que j'ai l'impression que les tendances se confirment. C'est-à-dire que le premier match de l'Angleterre n'était pas bon, le premier match de l'Italie n'était pas bon, si je résume rapidement, et les équipes qui ont été bonnes, le Real plus, l'Espagne était bonne, l'Allemagne était bonne, et c'est assez marrant.
Yvan n'est pas d'accord avec toi sur le constat.
Après, il y a des données objectives. Hein. Les données objectives, c'est quand tu prends les bons joueurs italiens, tu regardes où est-ce qu'ils jouent.
Oui, mais tu vois la réaction dont tu parles, même quand je vois ce qu'a fait Di Lorenzo, tu vois, qui reculait parce qu'il voulait pas se faire dribbler.
Ils avaient peur. Les deux latéraux ont eu peur parce que ce soir, je vois Di Marco qui n'est pas le meilleur des défenseurs, mais ne serait-ce qu'en par ses qualités de contre-attaquant et sa capacité à jouer haut, il pouvait au moins essayer de le faire reculer. Ils se sont mis bas dès le début et ils sont incapables de faire ça. Ils sont incapables. Il n'y a plus cette culture en Italie où tu pouvais subir pendant des minutes entières parce que tu savais défendre et surtout tu savais garder un ballon. Là, tu savais même pas le garder. Tu le prenais, tu mettais une sacoche devant, ça revenait comme un boomerang immédiatement. C'est pour ça que je te dis qu'en niveau d'équipe, vraiment, c'est un choc quand tu suis cette sélection depuis toujours. Le niveau qu'elle a proposé, je n'ai jamais vu ça. Parce que même quand elle est dominée, elle sait faire de défendre, elle sait casser un rythme, elle a une culture de la compétition. Là, c'est plus que surclassé.
C'est complètement fou. Hein. La première intervention de Unai Simon, où il doit prendre un ballon, et encore, c'est tout simple, hein, sur un corner, c'est à la 86e minute.
Et la première frappe, elle vient très tard, celle de Chiesa, je crois.
Ouais, exactement. Même constat que Daniel, t'as jamais vu ça?
Non, moi, on a échangé juste avant l'émission, enfin, juste avant qu'on prenne l'antenne sur l'after. Moi, pour moi, la seule comparaison que je peux faire, c'est difficile parce qu'il faut regarder la qualité de l'adversaire, il y a plein de choses à regarder, mais moi, l'Italie 2010, sur l'ensemble de la compétition, j'ai jamais vu une équipe aussi faible sur toute une compétition. L'Italie 2010, le match nul contre la Nouvelle-Zélande, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un délire total. Donc, et évidemment que t'avais un peu plus d'occasions, mais en même temps, la Nouvelle-Zélande, c'est pas l'Espagne d'aujourd'hui non plus. Donc, c'est une des pires, ça c'est sans doute, je suis tout à fait d'accord avec ça.
T'es surpris ou pas? Est-ce que t'es surpris?
Non, mais depuis le début de l'Euro, qu'est-ce que je vous raconte? C'est que je vous dis que je suis pas confiant avec cette sélection.
Pas être fort, Johan.
Non, mais c'est d'accord. Et être écrasé comme ça. Là, non, voilà, je suis d'accord. C'est... Après, il y a un truc, c'est que Spalletti conçoit sa sélection comme une équipe qui doit dominer le jeu. Si elle ne parvient pas à avoir le ballon et à faire le match à sa main, avec un rythme qui n'est pas le rythme des plus grandes sélections, voire même, on peut le comparer avec les plus grands championnats, elle est très en difficulté. Ce soir, il y a un truc qui m'agace, c'est pas de subir, parce que tu peux rencontrer un adversaire qui est beaucoup plus fort que toi, et il n'y a pas de problème, c'est l'histoire
mais
des
déjà arrivé à l'Italie de pas avoir de bonnes équipes, mais le caractère,
et même
il
de
était
perdre,
là.
Et de perdre contre des grosses équipes, il n'y a pas de problème.
Là, t'as pas de caractère.
C'est que, au-delà du caractère, mais ça, c'est un peu corrélé, t'as raison, c'est que, même Mancini, par exemple, il y a des matchs où ils ont été en difficulté. Si vous prenez le match contre l'Espagne, la demi-finale de dernier Euro, ils sont moins bons dans le jeu.
C'est quand même toi qui marques en premier.
Oui.
Et après, c'est vrai que tu
mais
subis toute
contre,
la deuxième.
Mais par contre, il y a une différence. C'est que tous les ballons que tu récupères, tu les exploites correctement.
Bien sûr, c'était propre.
Et même des occasions où tu étais très très loin du but adverse, parce que là, ce soir, ils font 90 minutes à 30, à 70 mètres du but adverse. Même contre des équipes plus fortes où tu étais dans cette configuration-là, tu avais la qualité technique pour sortir et le volume de course des joueurs qui accompagnent
exactement
la sortie.
Johan, en 2016,
Marco Verratti n'est plus là, il était là en 2021.
C'est pas le joueur pour ça.
Pour sortir le ballon, proprement.
Si, mais pour accompagner surtout.
Accompagner non, pour accompagner.
Pitié, restons sérieux. En 2016, l'équipe elle est pas beaucoup plus forte.
Ah mais même nettement moins forte.
Sauf que ils éliminent l'Espagne, ils font un énorme match contre l'Allemagne en quart. Toutes les équipes lui sont quasiment plus fortes. Les Belges à l'époque étaient forts, s'est battu en poule, mais il y avait un volume de course et il y avait surtout une tactique adaptée.
Ouais.
Tu savais que t'étais un peu faiblard. Comté, il avait mis une équipe. Les gars, soit vous courez 115, 120 km dans le match, soit on n'arrivera à rien parce que les attaquants là ce soir on dit Scamacca c'est mauvais, Retegui c'est pas. Ok, d'accord, parce que Graziano Pelé, Eder et machin c'était bon. Non, à un moment il faut là, tu t'es fait marcher dessus. Écrabouillé par le flow. Et après, j'accueille.
Il y a un truc, c'est aussi là-dessus que je veux intervenir sur les attaquants, parce qu'évidemment, ils vont se faire massacrer. Alors que, honnêtement, pour Chiesa, c'est un enfer. C'est un enfer. Il a été envoyé au casse-pipe Chiesa ce soir. Donc, il est sorti dégoûté. Donc, là, pour le coup, c'est quand même effectivement aussi le sélectionneur. Il faut que tu fasses l'équipe, enfin, la tactique et l'équipe en fonction de ce que tu as comme matériel et par rapport à ton adversaire. Et, c'est Chiesa, même Scamacca, le mec te dit il est pas bon, il est pas. Mais comment veux-tu? Ils sont 40 mètres décollés de leur milieu de terrain. À aucun moment ils ont été soutenus. Chiesa, il est envoyé quand il a eu son occasion. Pour la seule fois du match, il était tourné vers le but. Il a dit c'est bon, je frappe. Il a frappé, c'était une pauvre frappe, c'était terminé. Il n'y a pas eu d'occasion. À aucun moment tu pouvais imaginer que les Italiens allaient marquer. Et pour ça d'ailleurs, les Espagnols ont fait, pour moi, leur seule erreur, c'est de se mettre un peu bas sur les 10 dernières minutes quand même.
Oui, parce que sur un corner,
c'est venu d'abord de la sortie des deux ailiers qui faisaient peur à tout le monde.
De Lamine Yamal et de Nico Williams.
D'un coup, les Italiens, comme si d'un coup ils se sont dit bah, tiens,
on peut attaquer.
Les deux sont plus là. Si on mettait le nez à la fenêtre pour voir un peu. D'ailleurs, erreur de le faire et si tard. Et puis après, t'acceptes que des mecs peuvent te mettre en danger. Bah ok, mais c'est bien la preuve que ça sert à rien de se mettre derrière si en plus tu sais pas défendre comme ils l'ont fait. Mais c'est les Espagnols qui ont permis à l'Italie de faire 10 minutes un petit peu meilleur. Ouais, mais c'est l'Espagne qui a tout fait dans ce match.
Il y a juste quelque chose pour revenir sur les deux ailiers espagnols. Il y a quand même un truc, c'est qu'en Italie, les défenseurs italiens n'ont pas l'habitude de ce type d'ailier. On a beaucoup en Italie des ailiers techniques qui rentrent à l'intérieur, mais des joueurs assez lents.
Il n'y a pas de joueurs de percussion.
Des joueurs aussi véloces, c'est pour ça que Léao, par exemple, fait autant de différence en Italie, parce qu'il y a très peu de joueurs de ce profil-là. C'est pour ça qu'un Marcus Thuram, qui est aussi dans la percussion, qui est certes plus axial, mais fait autant de différence en Italie, c'est parce qu'on a du mal avec ce type de profil. Daniel. Et qu'en Italie, ils sont en train de commencer à regarder aussi ces profils-là dans les grands clubs pour essayer de développer aussi cette palette du jeu qui est totalement
athlétique. Mais toi,
Daniel, c'est ce que tu disais l'autre jour, tu sais, sur ce joueur à la Dembélé, tous ces joueurs.
Oui, bien sûr, c'est les joueurs du football moderne.
Et je te disais, les raisons pour lesquelles moi, je préférais les avoir dans ce football-là, parce que regarde ce soir, il y a du déchet, d'ailleurs.
Oui, mais il arrête pas. Mais ils sont derrière 15 fois, 20 fois, ils sont attaqués.
Ah non, mais je suis totalement conscient que ce genre de football, c'est capital dans ce
soir. Les Italiens, ils prennent un million sur le nouveau foot, mais qui n'est pas forcément génial. T'as raison, il y a du déchet. Les mecs, Nico Williams, avant qu'il mette un but, tu sais pas ce qu'il va arriver.
Il
est magnifique.
Dans ce type de joueur, il y a des gammes différentes. Et les Espagnols, ils ont des gammes au-dessus, parce qu'en plus, ils sont percute physique et ils ont la technique. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont que
c'est une meilleure
droit,
équipe.
Technique et tout.
Avec des meilleures individualités.
Rapide. Là, t'as deux tours.
Allez, pause.
Là.
Dans un instant, on prolonge sur le débrief de cette victoire de l'Espagne contre l'Italie. Théo sera avec nous, supporter italien, qui pense que Spalletti s'est planté dans sa compo. On va en parler ensemble. Puis, dans ici un gros quart d'heure, on parlera de l'Angleterre. Julien Laurence nous rejoindra, évidemment. Reste avec nous. C'est l'after sur RMC 23h13. À tout de suite.
Avec DAZN, streamez tous les matchs de Ligue 1 McDonald's. 8 matchs en direct et un en décalé chaque week-end de championnat. Suivez également en exclusivité l'intégralité de la Betclic Elite en basket. Toute l'intensité du MMA avec les saisons PFL et Bellator. La Ligue des champions féminines de l'UEFA et d'autres compétitions prestigieuses. DAZN, c'est toute la Ligue 1 McDonald's. Tous les matchs, tous réunis, seulement sur DAZN. Pour vous abonner, téléchargez l'app ou rendez-vous sur dazn.com.
T'aimes la Ligue 1 ?
Ouais.
T'aimes les gros matchs ?
Ouais.
T'es dispo les samedis à 17h ?
Ah ouais.
T'as Bein Sport ?
Ah, non.
Bah, la Ligue 1 revient sur Bein Sport. Un big match, tous les samedis, à 17h. Abonne-toi.
Ah ouais.
La Ligue 1 McDonald's revient sur Bein Sport avec ce samedi 17h, un big match, LOSC Strasbourg. Bein Sport, c'est aussi 100% des matchs de Ligue 2 BKT, la Coupe de France et la Liga en exclusivité. Et tout ça pour 15€ par mois, sans engagement. Plus d'infos sur s'abonner.beamsport.com. Voir offre des distributeurs, big signifie grand.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, Intégral Euro.
Nicolas Jamain.
Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, avec Fred Armel pour l'Espagne qui s'est imposé 1-0 face à l'Italie, avec Johan Crochet pour l'Italie qui a été battu 1-0 par l'Espagne. Mais l'Italie n'est pas morte, hein. Justement, j'accueille tout de suite Théo. Bonsoir Théo, supporter de la Nationale.
Bonsoir à tous.
Ciao Théo.
Bienvenue dans l'After, mon cher Théo. Bon, alors comment tu... Quel est ton regard, ton analyse de la défaite du... On a déjà fait le tour un petit peu, hein, notamment la différence de niveau, technique, athlétique peut-être aussi. Quelle est ton analyse, toi ?
Alors, moi, je voulais un peu aller dans le même sens ce que disait Flo Gautreau tout à l'heure. En fait, je pense que le sélectionneur s'est trompé de tactique dans le sens où il met des joueurs qui vont pas face à l'Espagne. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Scamacca. Je pense que face à l'Espagne, c'est se tromper au vu du niveau technique qu'ils ont, qu'on peut pas avoir le ballon. Donc, forcément, on va subir. Dit subir, derrière, partir en contre. Et quelqu'un comme Scamacca, c'est pas possible. Idem, on met Jorginho au milieu de terrain. C'est compliqué. On peut pas faire 3-4 touches de balle face à l'Espagne. Il faut qu'on joue à une touche de balle. Il faut que la balle aille très très vite. Un peu ce qu'on faisait en 2021 d'ailleurs. Et j'ai pas compris des choix. Par exemple, à un moment donné, il fait rentrer Cristante à la mi-temps. Je trouve que c'est pas le style de joueur qui correspond à l'Espagne.
C'est surtout pas un joueur pour la nationale, et Théo, il a rien à faire là.
Et puis c'est que t'en as pas des masses, des joueurs, il faut dire la vérité.
Non, c'est vrai. Mais par exemple, il y a Fagioli. Bon, alors je sais pas s'il est blessé ou s'il peut pas jouer. Mais moi, j'aimerais bien le voir. Je pense que, notamment face à l'Espagne, je pense que ça pourrait être intéressant. Et il y a même aussi la question de la défense. On fait une défense à 4. Laisser Di Lorenzo et Di Marco tout seul en 1v1 face à Yamal et Williams. Pour moi, c'est du suicide.
Oui, mais ça c'est Théo. Ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Johan. Soit tu actes dès le départ que t'as une équipe un peu faiblarde et tu fais ce que Conte avait fait en 2016. Personne attendait l'équipe. Tout le monde disait, bon, de toute façon, avec des mecs, un peu de la Lazio, un peu de ceci, un peu de cela.
Les joueurs sont quand même meilleurs.
Ils sont meilleurs à l'époque.
Non, là.
Oui. Bah, là, non, mais c'est pour ça que c'est ce que je suis en train de dire. Soit tu actais, comme il avait fait, et tu mets une tactique avec 5 mecs derrière et tu joues les récup et les transitions et tu cavales à faire 120 km/h dans le match, comme ils avaient fait contre la Belgique. Mais ça veut dire que là, avant l'Euro, Spalletti fallait qu'il se dise, on va jouer l'Espagne et en fait, j'arrête un peu tout ce que j'ai essayé, je m'adapte juste sur ce match, les actes qui vont être deux fois plus forts que moi. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui vont faire un truc pareil.
Oui.
Parce que c'est un peu se renier, c'est un peu envoyer un message négatif. Il est là le problème. Et t'auras remarqué, on se le disait il y a deux secondes avec Yohan, oui, quand Cambiasso est rentré, qu'en fait ça a un peu étalé la défense sur la largeur, t'as un peu moins souffert. Mais ça veut dire en gros que dès le départ, tu disais, comme l'Italie a pu le faire dans son histoire, ok, on va subir, on va jouer de cette façon, on va l'assumer. Mais en Italie, ça s'assume plus trop, ça. Et culturellement, t'as perdu ce truc-là, l'art de la défense.
Spalletti a parlé déjà en conférence de presse, là, Johan.
Ouais,
c'était pas beau.
Un gros manque de lucidité, je pense, quand il a parlé de fraîcheur espagnole par rapport à ses joueurs, en disant que ça avait fait la différence et que quand 3 ou 4 joueurs, donc des remplaçants, sont entrés en deuxième mi-temps, il avait vu une différence et que cette équipe avait créé des situations qui auraient pu permettre d'égaliser. Donc, il y a à peu près rien qui va là-dedans.
Les situations.
Nulle part, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être aussi le fameux truc de je protège mon groupe pour pas les enfoncer.
Certainement ça.
Après, les Espagnols, ils ont pas joué cette saison, ils sont pas fatigués.
Juste un truc par rapport à ce que disait Daniel. Moi, je m'attendais, et j'en avais parlé dans une émission italienne, moi, je disais, c'est impossible qu'ils reproposent la même ligne de 4 face à l'Espagne. Pour moi, c'était impossible. Je misais sur soit une défense à 4, mais avec un mec au marquage comme Mancini, qui va être dur sur l'homme. Mais moi, je pensais qu'il allait faire une défense à 3.
Moi, je pensais qu'il mettrait la même équipe, malheureusement.
3 des 4 matchs avant l'Euro, il les joue à 3 derrière. Donc, il a testé cette solution-là.
C'est un peu, ouais, ce que lui sait faire.
Parce qu'en fait, avec tes deux ailiers qui sont ultra dominants, tu fais des prises à 2, centrale droit. Central droit, central gauche,
et tu peux
gauche.
Éventuellement les faire reculer les deux.
Juste à tu pour finir sur le Spalletti, parce que c'est quand même dingue, puisque là c'est le débat. Moi j'étais très surpris aussi, à l'inverse, qu'ils mettent la même équipe. Enfin, surpris ou pas, pas surpris par le personnage, mais c'est quand même, je trouve, aujourd'hui, quand tu joues contre la meilleure équipe du groupe, qu'en plus t'as quelque part gagné ton premier match, donc t'es pas du tout dans un, t'es pas sous pression, quoi. Que tu n'aies aucune idée, enfin aucune inventivité particulière, aucune imprévisibilité, moi je trouve ça dingue. Donc c'est vrai que je trouve que là, effectivement, tu disais, c'est pas pour Southgate tout à l'heure, on aura ce débat, c'est pas le sélectionneur. Moi je pense quand même que quand t'as une équipe qui est plus faible que l'autre, le sélectionneur, il doit trouver une solution.
Oui, mais
c'est pas tes joueurs, bien sûr.
Mais il a pas trouvé de solution sur les attaques au tout début des attaques de Nico Williams. Il a trouvé aucune solution. Mais alors que ça a duré une demi-heure sans arrêt, quoi.
Est-ce que vous étiez sûr à 100%, je dis bien vraiment complètement, avant le coup d'envoi, après ce qu'on avait vu,
que l'Espagne était supérieure?
Pas que l'Espagne était supérieure.
Oui. Enfin,
pas que l'Espagne était supérieure. Que ça pouvait prendre une telle tournure, à ce point, une telle domination.
Mais non.
Pourquoi impossible. Je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que l'Espagne, elle met 3-0 à la Croatie, donc elle met un score plus lourd que ce soir. Tu vois, comme quoi le score ne veut pas toujours tout dire.
Bah non, c'est sûr.
Je pense qu'elle a écrabouillé beaucoup plus l'Italie que la Croatie.
Oui.
Et la Croatie, que moi, depuis le début du tournoi, j'ai trouvé plus faible que l'Italie.
Oui.
Et la Croatie, dans ce match, honnêtement,
fait meilleure figure que l'Italie.
Se crée 3-4 situations et balles de but qui m'ont fait penser, quand j'ai vu le match, moi, je me suis dit, l'Espagne est forte, mais 3-4 situations que la Croatie s'est créée, pour l'Italie, je trouve que c'est un motif d'espoir.
Exactement.
Est-ce que Spalletti s'est dit la même chose? C'est pour ça.
Apparemment ouais, non.
Sauf que te dire que tu peux faire mal à l'Espagne, c'est une chose. Mais comment tu fais mal à l'Espagne? Comment la Croatie a fait mal à l'Espagne? C'est pas en ayant son joueur, en ayant ses deux attaquants aussi. qui étaient détachés de leur milieu de terrain.
De la folie hein, dans son match contre l'Espagne.
Mais après, juste
il y a quand même plus de contrôle de la part de la Croatie que ce qu'a fait l'Italie.
Carrément.
Alors moi, je pense pas qu'ils ont accepté de subir. Alors justement, je pense qu'ils n'ont eu aucun moyen de répondre à ce que faisait l'Espagne et donc ils ont subi. Mais
pour répondre juste à la question de Daniel, moi quand même, pour avoir bossé sur le match en pronostic et tout avant, j'étais persuadé que l'Espagne était supérieure parce que comme je vous l'ai dit depuis le début de l'Euro, les équipes qui sont supérieures et les équipes qui n'y arrivent pas, ça se voit, il y a un écart.
Bon les gars, est-ce que l'Italie est en danger dans cet Euro avant d'affronter la Croatie? Est-ce qu'elle peut craindre le pire
comme l'Angleterre
et être éliminée?
En fait, il faut regarder les groupes.
L'Angleterre lundi à 21h.
Non mais ce que je veux dire, moi
l'Italie a besoin d'un point.
Voilà, c'est ça.
Ils vont jouer le match avec en sachant que le nul peut suffire. C'est pas une situation que historiquement l'Italie a si géré, mais pas ces dernières
mais
années.
C'est surtout qu'après une claque comme ça, jamais de la vie tu peux être confiant avant un match contre
l'Italie. Après, dépend ce que tu veux dire. Moi, l'histoire de la qualif pour les huitièmes, vu le système, c'est pas un enjeu. Mais évidemment, il y a toujours un danger. Mais c'est pas ça l'histoire. Moi, je veux savoir parmi toutes ces grandes nations de foot, en gros, celles qui ont une chance d'aller au bout ou celles qui n'ont pas de chance d'aller au bout, parce que c'est ça qui compte. Honnêtement, là, de ce que tu vois de l'Italie et de l'Angleterre, c'est pas possible.
Mais attention.
Mais bon, après, peut-être
sur le principe, je suis d'accord. Mais connaissant un peu l'histoire, jamais une fois que l'Italie est en huitième de finale, tu peux te dire ils vont s'arrêter là.
Ouais.
Il y a quand même un truc, contrairement à l'Angleterre qui a choqué un paquet de fois, l'Italie, même avec une Italie moins forte, des joueurs moins forts, etc.
Moi, en règle générale, je suis de cette Italie parce que historiquement, je connais
2016,
leur qualité de
l'équipe,
compétition.
L'équipe, elle est catastrophique, t'es pas loin de faire demi-finale.
Oui, mais dans la poule, tu vois déjà qu'elle a un caractère de fou. Là, j'ai du mal avec le caractère de cette équipe. Et je pensais que Jorginho, cette année, à Arsenal, je l'ai vu sur la fin redevenir titulaire. Et s'il reste titulaire et qu'il affiche ce niveau, c'est pas possible.
Parce qu'il me fait peur par rapport à ce que tu nous as dit, toi, Johan, c'est ton problème de banc. C'est-à-dire que si t'as des solutions, plusieurs, pour pouvoir changer ça.
Il a des solutions tactiques. Il a pas d'individualité, mais il a des solutions tactiques pour mettre en place un collectif différent.
Bon, on aura le temps d'en parler. C'est lundi, l'issue du groupe B, Croatie, Italie à 21h, Albanie, Espagne à 21h, l'Espagne déjà qualifiée, Nico Williams, élu homme du match, Ça aurait pu être Cucurella.
Ah, voilà. Bah, j'allais dire, c'est ce que j'ai dernier. Cucurella qui a réussi, il y a les stats qui viennent de sortir. 100% de ses passes réussies. Et il en a fait pas mal.
La vérité, je veux bien sur Cucurella. Mais moi, quand je vois le match.
Celui qui fait toutes les différences, c'est Nico.
Mais c'est Nico Williams, évidemment.
Certes, mais je vais pas non plus le citer lui, parce qu'évidemment, c'est évident.
Rodri.
Mais moi, je me demande si une équipe qui a Rodri peut perdre un match.
Ah, ben il est. Alors, pourquoi on a eu très
alors,
peur.
Vous allez dire, ouais, City et tout. City a perdu au péno contre le Real. Je ne vois que ça pour battre une équipe qui a ce gars-là. Ce gars-là, il est tellement monstrueux. Il fait tellement tout au milieu, les orientations, les récup, le pas en avant, la passe en avant.
Il y a un meilleur que Ruiz aussi.
Il y a un meilleur que Ruiz. Aurait pu aussi, même ce soir à nouveau, avoir meilleur genre de match. Avec un bagage physique qui plus est, incroyable.
Je voudrais revenir sur Cucurella parce que Cucurella, en fait, Rodri a joué souvent très, très, très offensif et Cucurella venait faire la couverture. Non mais c'est vrai, tu regardes le travail de Cucurella, c'est impressionnant.
Instinctivement,
moi tu me dis il y a un joueur qui ne doit pas se blesser si je suis supporter de l'Espagne.
Comme nom.
Pour moi c'est Rodri.
Rodri.
Ah bah,
bon, le mec que en priorité je veux, c'est lui.
Mais attends, tu as vu quand il s'est touché le genou, tu avais tous les joueurs espagnols qui étaient autour et qui se disaient oh là là qu'est-ce qui se passe.
L'interrogation pour l'ambition espagnole, c'est aussi est-ce que cette défense franco-espagnole va tenir aussi, ça on aura tendance à parler le Normand.
En fait elle a pas été gênée ce soir.
Sauf que merci l'arbitre quand même. Parce que c'est un deuxième jaune qui est tout à fait possible pour le Normand. Ah oui, sur une faute. Et d'ailleurs
c'était lamentable du début à la fin.
D'ailleurs, Rodri, il joue pas le prochain match.
Non, de toute façon, il a pas besoin.
C'est vrai.
Voilà pour Espagne Italie. Merci Fred.
Gracias, Tico.
À très vite, t'es en huitième de finale. Ton été se prolonge sur RMC. Johan, il va se prolonger aussi. De toute façon, t'as tellement de dépendance que tu seras là quoi qu'il arrive, mais l'Italie sera sûrement en huitième de finale.
Je pense qu'il préférerait que ce soit l'Italie.
Oui, mais bon, il aura du taf quand même a priori.
Si ça t'embête pas, je veux bien continuer à le voir.
Un mot sur les Pays-Bas. Demain, compo probable qui est sorti quelque part dans la presse néerlandaise. Ou pas?
Non, pas encore.
Moi, j'ai vu que Xavi Simon n'était pas forcément présenté pour le
J'en parlais cet après-midi. Après le premier match, je pense que Frimpong, notamment dans le couloir de Théo, pour beaucoup le limiter, parce que Théo ne pourra pas faire le même match si c'est que Frimpong, qui va à 2000 et peut-être plus vite que lui, peut partir dans son dos. Je pense que ça peut être vraiment un truc tactique de Koeman demain.
Yoann, merci. Très bonne soirée à toi.
Ciao, ciao.
À très vite sur RMC. On parlera tout à l'heure de la composition probable de l'équipe de France, bien sûr, avant les Pays-Bas, mais dans un instant, on accueille Julien Laurens. Passage attendu dans l'after ce soir. Vous le savez, tous les lundis soirs, il tape sur Gareth Southgate. On l'attend dans quelques secondes. Merci Fredo, merci Yoann.
Le Sylvain Ripoll.
Oui, mais je lui laisse cette appellation-là, tu vois. D'accord. Ça lui appartient. Flo est avec moi, Daniel aussi, vous écoutez l'after sur RMC, 23h28. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
Avec DAZN, streamez tous les matchs de Ligue 1 McDonald's. 8 matchs en direct et 1 en décalé chaque week-end de championnat. Suivez également en exclusivité l'intégralité de la Betclic Elite en basket. Toute l'intensité du MMA avec les saisons PFL et Bellator, la Ligue des champions féminines de l'UEFA et d'autres compétitions prestigieuses. DAZN, c'est toute la Ligue 1 McDonald's, tous les matchs, tous réunis, seulement sur DAZN. Pour vous abonner, téléchargez l'app ou rendez-vous sur dazn.com.
T'aimes la Ligue 1 ?
Ouais.
T'aimes les gros matchs ?
Ouais.
T'es dispo les samedis à 17h ?
Ah ouais.
T'as Beansport ?
Ah oh, non.
Bah, la Ligue 1 revient sur Beansport. Un big match, tous les samedis, à 17h. Abonne-toi.
Ah ouais.
La Ligue 1 McDonald's revient sur Beansport avec ce samedi 17h, un big match, LOSC Strasbourg. Beansport, c'est aussi 100% des matchs de Ligue 2 BKT, la Coupe de France et la Liga en exclusivité. Et tout ça pour 15€ par mois, sans engagement. Plus d'infos sur s'abonner.beansport.com. Voir offre des distributeurs, big signifie grand.
RMC, jusqu'à 12h30, l'After Foot, Intégral Euro,
Nicolas Jamin.
L'after ce soir sur RMC avec Daniel Riolo et avec Flo Gautreau. On est ensemble jusqu'à 12h30, vous le savez, un nouvel horaire pendant toute la durée de l'Euro jusqu'à la finale le 14 juillet. La libre antenne dans la foulée de 12h30 à 1h30 du matin. J'accueille Julien Laurens. Bonsoir mon cher Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Julien qui est dans l'ambiance de l'Euro puisqu'il a assisté à Gelsenkirchen, à cette Espagne-Italie qu'on vient de débriefer. Tiens, rapidement, ton impression toi depuis les tribunes, Julien?
Très impressionné par les Espagnols, vraiment vraiment dans la structure tactique de cette équipe, son équilibre, sincèrement sur toutes les lignes, j'ai trouvé ça très très fort aujourd'hui. Je suis un peu déçu par les Italiens pour être honnête, parce qu'avec le ballon ils ont été capables de rien du tout finalement, sous la pression je sais, mais quand même j'espérais un peu plus de leur part. Mais moi, cette équipe d'Espagne, moi, sincèrement, elle m'impressionne. J'étais déjà au match de la Croatie, ils avaient concédé des occasions, notamment en transition rapide,
ouais.
Et là ce soir ils n'ont rien donné à l'Italie quoi. C'était ouais. vraiment j'ai trouvé ça impressionnant.
Alors Danemark-Angleterre, qu'est-ce que c'était les mon cher Julien? Un partout, Kane à la 18e, Hjulmand à la 34e. Et encore, on va en parler avec Daniel et Flo hein, les Anglais s'en sortent plutôt pas mal dans l'histoire. La colère que je disais sur les réseaux sociaux, sur les sites anglais également, contre un homme dirigé quasiment exclusivement, c'est un peu réducteur peut-être hein, Daniel en parlait tout à l'heure, Gareth Southgate bien sûr, accusé de ne pas avoir fait les bons choix tactiques pendant le match également. C'est lui qui prend quasiment tout ce soir.
Ah, il prend très cher effectivement sur les réseaux, pas que sur les réseaux, hein, dans les médias aussi, à la radio, à la télé, dans les journaux. Il a longtemps été défendu parce que c'est vrai qu'on l'avait dit, c'est quelqu'un qui est très apprécié en Angleterre. Déjà c'était un joueur qui était très apprécié parce que c'est une bonne personne, il est très gentil, il s'exprime très bien, il a ramené du calme et de la sérénité. Mais là c'est vrai que je pense que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors le Sylvain Ripoll anglais, à un moment, il continue à pas nous surprendre, puisqu'on le répète depuis maintenant plusieurs années, qu'il a quand même, il sait pas trop ce qu'il fait finalement. On l'a vu encore une fois dans sa composition d'équipe aujourd'hui avec Trent Alexander-Arnold, qu'on avait déjà expliqué après le premier match contre la Serbie, que c'était pas une position pour lui. On l'a vu, le pauvre, il était à la dérive totale aujourd'hui. Et quand tu sors un joueur à un poste aussi important après 55 minutes de jeu pour le deuxième match d'affilée, parce que pour la deuxième fois, il a failli, c'est que il y a vraiment un gros problème. Il a expliqué à la télévision anglaise après Southgate qu'il faisait une expérimentation avec Alexander-Arnold. Mais tu fais pas une expérimentation au début de l'Euro, tu fais ça dans les matchs amicaux avant, tu fais ça dans les qualifications si tu veux quand tu joues contre des équipes en bois. Mais me fais pas des expérimentations pareilles que dans des matchs comme ça, contre la Serbie, contre le Danemark aujourd'hui. C'est ni fait ni à faire, ça ne veut rien dire. Il a sorti Kane, il a sorti Saka, moi j'ai trouvé qu'il a fait n'importe quoi du début à la fin.
Maintenant, Julien, bon ça on le sait puisqu'on est du même avis sur ce coach et sur ce qu'il fait. Néanmoins, moi je me dis quand même à un moment, les joueurs se cachent un petit peu trop derrière Southgate et ses choix. Parce que quand tu vois les prestations individuelles de Bellingham, de Kane, Et j'ose à peine parler du joueur qui était sur le côté droit, qui je crois joue à Arsenal, et qui quand je le vois à Arsenal me régale quasiment à tous les coups, et qui est mais mauvais régulièrement avec l'Angleterre. Ça, il faut également le dire. Foden, pardon, mais lui de la même façon, à City il me régale. Et là, ok, on me dit sur le côté, non et tout. Que je sache, il a quand même beaucoup joué sur le côté avant d'être un peu plus recentré cette année. Et puis, de toute façon, cet après-midi, honnêtement, il n'a pas été tant que ça sur le côté. Il était un peu libre de faire ce qu'il voulait. Ces mecs-là, individuellement, n'ont pas été bons. C'est à eux aussi, à un moment, de se dire, ok, on n'a peut-être pas un bon coach, il fait peut-être des choix bizarres, mais... individuellement on est tellement fort, collectivement on doit quand même être capable d'aller tous dans le même sens. Là t'as des mecs mais ils jouent pas, c'est du 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est une prestation qui est pour plusieurs joueurs de cette équipe qui est totalement insipide. Les mecs n'ont pas le droit avec le niveau qu'ils ont. Alors il y a une autre question qui se pose en parallèle de ça, et ça ça arrive pratiquement dans l'histoire des sélections, c'est un peu à classique. Nous, on avait ça à l'époque avec les Nantais. C'est les joueurs qui jouent dans des collectifs ultra huilés et dans un style précis. Quand tu les sors de ça,
oui, mais...
très souvent, ils ont un mal fou. Et Foden,
les joueurs de City,
les joueurs de City, les joueurs d'Arsenal,
les joueurs d'Arsenal d'ailleurs,
exactement,
souvent.
Qui jouent mais City aussi. Dans des schémas très particuliers. T'as l'impression que tu les sors de ça, ils ne s'adaptent pas, ils sont perdus. Ça me rappelle la grande époque de Milan. Effectivement, en équipe nationale, en 90, à la Coupe du Monde, ça devait être le grand Milan qui devait s'étaler sur toute la Coupe du Monde parce que c'était le grand Milan de Sacchi. Et il y avait la moitié de l'équipe, c'était des Milanais, de Donadoni à Barésime. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. L'équipe, elle est allée en demi-finale. Elle n'a tenu que sur deux joueurs qui n'étaient pas titulaires au départ, Schillaci, Baggio. Et là, c'est pareil. Quand tu sors ces mecs-là qui sont habitués à jouer d'une façon, souvent ils ont beaucoup de mal. Et moi, Foden, il me déçoit. Saka, il me déçoit. Mais tous, Walker,
le match de Bellingham. Tiens, Bellingham.
Mais je suis d'accord avec toi, Daniel. Sauf qu'à un moment, il y a aussi le rôle de Southgate, c'est d'avoir su faire jouer lui dans sa structure à lui, mais après que tu peux copier ce qu'ils essaient de faire les autres. On a trop tendance aussi à vouloir comparer le football de club et le football international. Tu sais très bien,
oui, c'est
pas c'est deux mondes complètement différents. Mais là où Southgate il a failli aussi complètement, c'est qu'il a jamais su mettre ces joueurs-là dans le meilleur environnement. Et on va pas revenir sur les positionnements de chacun des uns et des autres, etc. C'est compliqué, on le sait. Ça date pas que de lui. On a parlé l'autre soir, toi et moi, de Gérard Lampard, de cette génération-là dorée qui a finalement jamais su jouer ensemble. Mais là c'est pareil. Ça fait quand même longtemps.
Mais là, quelle équipe on ferait en fait, Julien? Moi j'essaye de réfléchir, j'essaye de jouer à la compo, j'essaye de voir quelle équipe on ferait. Est-ce qu'on ferait une équipe vraiment différente à part, ok, Alexander Arnold, que tu mets pas à côté de Declan Rice?
C'est là où je pense que...
Non, mais il faut faire des choix forts après.
Oui, justement, je pense quand même que tu sous-estimes, Daniel, le rôle du sélectionneur. Parce que tu as ces joueurs-là, ok, ils sortent de leur environnement habituel, c'est vrai, ça peut ne pas être simple. Mais le fait que tu t'arrêtes de jouer quand tu marques un but, ça, c'est un truc que, si un sélectionneur ne supporte pas ça, il fait passer ce message à ses joueurs. Si les joueurs ne sentent pas ce message-là, je veux dire,
moi je pense que. Ils n'ont pas l'habitude, là où ils sont dans leur club, où ils sont d'être des dominants, des costauds.
Force est de constater, Daniel, qu'avec cette équipe d'Angleterre, Julien nous l'a raconté régulièrement et encore la dernière fois, et là, le but est arrivé tôt, donc les joueurs sont arrêtés tôt. Et lui, il sort, écoute bien, il sort Foden, Kane, Saka, tous ensemble à la 69e minute.
Qui était en train de faire des mauvais matchs.
Ouais, non, mais d'accord, mais je veux dire, à un moment donné, je veux bien être d'accord avec vous,
mais vous pouvez pas déresponsabiliser autant
que joueurs. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, je veux bien être d'accord. Je veux juste te dire que quand même, dans 7 euros, pour dézoomer un peu sur ce qu'on voit là, un peu sur les différentes sélections, comme par hasard, les sélectionneurs qu'on a mis en cause depuis quelques temps, sur leur façon de gérer, de manager et sur leur tactique, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté.
Le même Southgate, en jouant pas un football renversant, il est allé en finale de l'Euro. En quart contre la France, il domine. Et sans ce péno dans les nuages, on est à peu près tous convaincus que l'Angleterre a les moyens de passer sur la France. Donc, moi, je veux pas défendre Southgate. Je vois bien que c'est un entraîneur qui est très limité. Je l'ai dit depuis le début de son aventure à la tête de l'Angleterre. Je comprends même pas qu'ils soient encore en poste. Je dis qu'à un moment, les joueurs doivent également se prendre en main. Ils sont tous dans des grands clubs. C'est que des stars. Et je me demande justement s'ils ne se regardent pas un petit peu trop et s'ils n'ont pas la conviction qui est en plus un petit peu dans la culture anglaise du complexe de supériorité, de se dire oh, toi tu joues à City, toi tu joues au Real, toi t'es champion d'Europe, toi tu joues au Bayern, t'as mis un wagon de but cette année et tout. Et est-ce que les mecs sont pas convaincus d'être un petit peu plus beaux qu'ils ne le sont?
Moi franchement, moi je pense que les gars qui sont suffisamment intelligents, et Bellingham compris, qui a fait un bon premier match.
Ils sont si intelligents que ça. Hein.
Quand même, quand tu fais ces deux premiers matchs, ils analysent leurs deux premiers matchs, et y compris celui-là. Celui-là, il fait très mal. Ah oui. Dans l'état d'esprit, il fait très très mal. Je pense que non, ils ont conscience d'un problème. Alors attends, est-ce qu'ils sont capables de le gérer en, parce que
justement, Julien, ils sont premiers du groupe, ils ont 4 points, ils peuvent finir terminer premier du groupe. Je rappelle,
ils jouent la Slovénie. Ils vont jouer la Slovénie, ils vont faire. Voilà, ils vont terminer premier. Dans les faits, c'est pas tout n'est pas négatif non plus. Ils vont se qualifier, ils auront un huitième de finale. Ils devraient, s'ils finissent premier, avoir un huitième de finale qui est abordable. Parce que s'ils finissent deuxième, en revanche,
c'est l'Allemagne. Deuxième.
Exactement, c'est premier du groupe A. Tout à fait, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, vaut mieux pour eux qu'ils finissent premier. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on raconte là, c'est tout est vrai, et je pense qu'on est tous d'accord, mais on a tous des opinions. En Angleterre aussi, on parle beaucoup du Sylvain Ripoll anglais parce qu'ils en peuvent plus, mais aussi, comme l'a très bien dit Daniel, très justement, des joueurs qui font pas assez, même s'ils ne sont pas dans leur position préférentielle, ils font pas assez, très bien. Le souci, c'est que Southgate, on l'avait aussi expliqué avant, il avait pacifié un petit peu tout cet environnement autour de la sélection. Avant, ça avait été très toxique par le passé. Là, c'est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Le problème, c'est que depuis quelques jours maintenant, c'est plus serein du tout. C'est que tout le monde est en train de les critiquer, les joueurs, l'entraîneur, l'environnement de la sélection, alors qu'avant, c'était plutôt cool, finalement. Et c'est ça que lui avait voulu. Maintenant, t'as ce côté toxique qui est en train de revenir. Donc là, ils vont jouer la Slovénie. Si ça se passe pas bien, s'ils jouent pas bien, même s'ils gagnent, alors encore pire, s'ils font match nul ou ce genre de résultat-là, je pense que ça va exploser. Et c'est là en fait où c'est dangereux, parce qu'avant, même si ça jouait pas bien, il y avait cette sérénité, ils allaient loin. Alors t'as raison Daniel, ils vont loin, mais ils vont loin dans des parties de tableau qui à chaque fois sont faciles.
Ouais,
hein.
C'est vrai.
Ne l'oublions pas quand même. C'est Ukraine en quart de finale,
enfin,
c'est Danemark en demi-finale, c'est Colombie
quand même. Hein.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont 4 points.
Hein. Ils ont 4 points, ils ont
7. Sinon, ils n'auraient pas 4 points.
Tiens, Julien, avant de te laisser également, il y a beaucoup de messages concernant un attaquant à Chelsea, une des révélations de la saison, 22 buts, Cole Palmer. On nous demande pourquoi Southgate ne lui file aucune minute, surtout quand c'est possible pour les Anglais.
C'est incroyable. Non, mais, et encore, le pire, donc Palmer, à 100%, surtout qu'il avait été bon lors d'un match amical d'avant Euro. Mainoo, Gordon, Palmer, donc les trois, hein, trois des meilleurs joueurs de la saison en première ligue. Gordon, il fait une très belle saison avec Newcastle, mais nous, on l'a dit, la révélation à United, ils ont joué 4 minutes. 4 minutes entre eux, dans les trois ensemble, donc combinés, on dit, ils ont joué que 4 minutes en deux matchs à l'Euro. Comment c'est possible que Cole Palmer n'entre pas en jeu quand tu fais des prestations pareilles?
Et quand il sort les trois
encore
attaquants.
Une fois, Sylvain Ripoll.
Oui, en plus, et quand il sort les trois attaquants,
là-dessus, je vous suis, la façon dont il change les gars, à quel moment, comme ça. Oui, on a l'impression que c'est bizarre, c'est bordélique son histoire.
Là, quand il sort les trois, t'as l'impression qu'il leur dit effectivement, vous êtes nuls, je vous sors maintenant. Il dit, bah ouais, mais mec, ok, 69. Et effectivement, il te met pas le gars que t'attends, que tu veux voir sortir.
Oui, mais il dit après un conf que c'était mieux après, justement, la sortie des trois, notamment sur la fin de match.
Mais en fait, comme dit Julien, tout est vrai. En fait, l'Angleterre, elle te propose quelque chose qui est assez simple à lire, au fond. T'es là, tu regardes, t'es obligé de t'en prendre au coach, t'es obligé de dire aux joueurs, mais les gars, mais vous avez envie de gagner, vous avez envie de courir ou quoi? Vous avez des attitudes, vous êtes hautain.
Bellingham, est-ce que t'es là aussi?
Bellingham, c'est pas possible.
C'est un peu l'incarnation.
Et on oublie peut-être un petit peu trop que Bellingham, attention, moi sa deuxième partie de saison au Real, parfois il y a beaucoup de suffisance, c'est pas
tu veux pas aller salir ton short un peu, c'était dur de faire aussi bien qu'en début de saison en même temps. Julien, on te laisse récupérer, tu prends la direction de Leipzig je crois pour Pays-Bas-France,
non sans passer sur le rooftop de son hôtel avant.
Je sais pas s'il aura le temps là à mon avis.
Non,
c'est
alors, pas Gelsenkirchen, hein. Excuse-moi mais non. Beaucoup, mais Gelsenkirchen,
je pensais que tu repassais par Berlin pour il y a pas une petite fête sur ton rooftop
pour la Ruhr, c'est pas assez.
Non, samedi soir ça, mon Daniel, samedi soir, quand je viens te chercher à l'aéroport, après on va tranquille, samedi soir.
Allez Julien, bonne soirée, à très vite.
Ciao.
T'es cool.
Bonne soirée.
À très vite sur RMC dans un instant. Tiens, l'équipe de France, bien sûr, avant les Pays-Bas, je vais vous rappeler la composition probable, on dira un mot, de la Serbie, du Serbie-Slovénie, un partout tout à l'heure.
Oui, alors un mot.
Ce serait quoi un mot? On peut faire maintenant, c'est quoi un mot?
Ennui.
Allez, on revient dans un instant avec Daniel.
C'est pas le même, tout à fait.
Garde-le. Et Flo sur RMC, c'est l'after.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Intégral Euro.
Nicolas Jamin.
avec Daniel Riolo et Florent Gautreau. On est ensemble jusqu'à minuit et demi comme tous les soirs. Vous êtes nombreux sur la chaîne YouTube de l'After à nous suivre, à envoyer des messages. Certains réclament la présence de Polo pour parler de Bellingham. Vous savez que Polo a beaucoup de mal avec Bellingham. Il nous rappelait cet après-midi sur RMC l'attitude de petit garçon gâté dans le vestiaire du Borussia Dortmund à l'époque. C'était un peu excessif.
Il peut avoir cette tendance.
Mais quel beau joueur quand même.
Et c'est sûr, c'est
les
sûr.
Les épaules ouvertes comme ça, le port altier.
Mais attends,
patron sur le terrain.
Attention à pas se laisser aller à cette tendance-là.
Peut-être.
Moi, quand je l'ai vu jouer cet après-midi, il avait marqué le premier but, là, cette tête, là, il est là au bon endroit, au bon moment, il claque le but du match. Il est nommé, enfin même désigné homme du match.
Bon, ça après ce truc-là.
Oui, non mais attends, c'est pour nous quand toi tu dis ces trucs-là et tout. T'inquiète pas que pour les joueurs ça compte.
Ah oui, ça oui,
eux, c'est incontestable ces trucs-là. Bien sûr, ils approchent pas comme toi qui dit ou comme moi qui dit ouais bon on sait que c'est un peu mytho, mais tu vois, genre, on comprend même pas qui est l'homme du match et tout. Pour les joueurs ça compte.
J'en reviens un peu.
Et là ce soir, je l'ai trouvé cet après-midi, je l'ai trouvé plein de boulards.
J'en reviens au sélectionneur et donc à l'entraîneur, au manager. Qui il a au Real? Qui peut lui dire peut-être les bonnes choses à la fin du match et qui peut ne pas les lui dire?
Busquets n'est pas Carlo Ancelotti.
Ouais, je pense que tu vois dans la fameuse gestion des stars dont on parle souvent avec Carlo Ancelotti, est-ce que Southgate est capable de voir ce que tu dis là et surtout de le dire, en disant attention le gars, t'es en train de te regarder, enlève le miroir. Je suis pas certain que tu vois ça se passe.
C'est pour ça qu'à une époque les Anglais, parce que c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, qui soient capables d'aligner 11 stars. C'est pour ça qu'à l'époque ils avaient fait Eriksson et Capello. Parce que c'était des entraîneurs, peu importe étrangers, mais qui avaient connu les gros effectifs, les stars et tout ça.
On va dire un peu plus qu'un mot de Sauvigny Servi, parce qu'on a un appel au 32-16 et priorité à ceux qui nous appellent et qui nous écoutent dans l'After. Milo est avec nous. Bonsoir Milo.
Salut Milo.
Salut à tous.
Bienvenue sur RMC dans l'After, supporter de la Serbie, hein, partout, score final. Quasiment éliminé.
Ton prénom Milo?
Avant le but, avant l'égalisation, un but qui maintient en vie. Flo avait une question.
Non, j'ai une question, c'est ton prénom Milo ou c'est un diminutif de Milosevic?
Non, c'est Milorad mon prénom, mais Milo, j'ai un peu raccourci, mais
ok.
Donc, on s'en tient un peu depuis l'enfance, mais ouais, c'est Milo. En effet, ouais, non, je j'appelle pour ça parce qu'en fait, moi, j'attendais rien à la Serbie parce qu'à chaque Euro, chaque Coupe du Monde, c'est la désillusion. 2018, pareil, on tape le Costa Rica. Bon, après, on perd contre la Suisse, à Brésil. Donc, je m'attendais à rien du tout. Par contre, le niveau est très faible. On a beaucoup d'individualité. T'as du Mitrovic, du Vlahovic, t'as du Sergei, t'as du Tadic, tout ça, c'est du blabla. Ça, c'est que du paraître. Mmh. Et malheureusement, en sélection, on n'a jamais fait. Si vous avez suivi un petit peu depuis que la Serbie a eu son indépendance, on a eu des Vidic, on a eu des Ivanovic. Mmh. Les mecs à leur prime, c'était les deux meilleurs défenseurs du monde. Chelsea, Manchester, il y avait rien à dire. On a eu du Kolarov, on a eu du Matic, du Stankovic, mais en sélection ça n'a jamais rien donné. En club c'était ce que vous voulez, hein, et l'Europa League et la Champions League, mais quand on arrive en sélection, il y a quelque chose, ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas, et ça c'est devenu une habitude.
Tu sais, j'ai pensé en regardant le match, je suis content, on est du même avis, parce que je regardais, je me disais, moi cette équipe de Serbie, j'ai jamais compris, parce que c'est un vrai pays de sport. Je veux pas parler de Djoko, et bon, après le sport majeur, c'est le basket, où ce pays a donné des équipes merveilleuses qui ont beaucoup de caractère. Et au foot, il y a des très bons joueurs, incontestablement, il y a toujours eu historiquement des très bons joueurs, mais l'équipe nationale n'a jamais rien réussi. J'ai pas souvenir d'avoir kiffé, d'avoir vibré avec une équipe de Serbie comme on a pu voir la Croatie ou je sais pas. C'est comme si les joueurs, une fois qu'ils sont éventuellement menés, qu'ils sont un peu dos au mur, ils se lâchent, ils commencent à se lâcher et ils attaquent. Mais sinon, au préalable. Oh là là là, je me souviens, à la dernière Coupe du Monde, c'est pas la Serbie qui fait ce match complètement dingo contre le Cameroun?
C'est ça, 3-1, non, 3-1 ou 3-0, et on se fait rattraper 3 partout, même moins.
C'est bizarre parce que c'est un pays où, pour le peu que j'en sais, c'est vraiment des gens de caractère, et les sportifs, au basket ou Djoko, sont vraiment des mecs qui ont beaucoup de caractère. Au foot, je ne retrouve pas ça. Je vois que des petits gars, des petits joueurs, ils ont un sélectionneur qui était un joueur absolument merveilleux, qui visiblement
Stankovic
ne réussit pas vraiment à monter son équipe. Il y a eu embrouille entre lui et Tadic la dernière fois, l'autre s'est excusé. Moi, je suis continuellement déçu par cette sélection, et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de beaux joueurs de foot dans cette équipe.
Mais il y a beaucoup de gens, Daniel, comme tu dis, nous, on n'a pas un grand vivier, attention, un pays de 6,8 millions d'habitants.
Oui, bien sûr.
Tu vois, donc on sort un crack une fois toutes les 5-6 ans. Là, on a deux joueurs, deux pépites, c'était Samardžić de l'Udinese, saison complète. Il est complet, il est excellent. Là, il y a l'Inter et Milan qui, et la Juve qui sont dessus, donc il va plier bagage, certainement. Et il y avait le petit milieu. Birmančević, le mec, il joue au Stadia Prague, ou au Sparta Prague. Le mec, il vient de sortir d'une saison Coupe Championnat doublé, meilleur jeune joueur de la Ligue 1 tchèque, meilleur étranger, meilleur défenseur. Et le mec, tu fais pas jouer 2-3 minutes. Mais c'est quoi ce coach, en fait? En fait, il mise que sur les individualités. C'est pas normal, en fait. Tu dois faire tourner. Tu dois avoir, quand t'as des gamins qui ont du feu dans les jambes, tu dois les faire jouer. Tu vois ce que je veux dire? Les Sergueï et Mitrovic, là-bas, ils prennent 26 millions d'euros par saison. Là-bas, en Arabie Saoudite, ouais. Les mecs, l'autre, il mange des pizzas, il fume des cigares après les matchs, il a pris 10 kilos. Qu'est-ce que tu veux miser sur des comme ça?
Premier match, Mitrovic, il m'a fait de la peine.
Ouais, c'est.
Non, mais, le mec, des Lego au pied. Flo, ils ont des Lego au pied, c'est pas possible. Même des peintres, c'est quand on dit mec, c'est des peintres. Oh. Même des peintres, ils auraient mis mieux que ça. C'est pas normal, donc tu dois faire tourner. Et moi, je te dis une chose, depuis qu'on a eu des grands joueurs, les Vidic, les Stankovic, les Kolarov, Ivanovic, on n'a plus rien. On a eu le même maintenant. Le Matic qui est revenu, mais il s'embrouille.
Depuis que Kolarov est parti, c'est le Muppet Show.
Voilà. Après, il y a eu le coach, Mladen Krstajic, l'ancien joueur de Schalke, qui était coach. Mais bon, là, chez nous, tu vois comment on dit, chaque pays a sa mafia. Nous, chez nous, c'est la mafia qui tient son pays. Parce que, en interne, à la présidence, il y avait Vidic aussi, il voulait se présenter. Mais Vidic, ils l'ont écarté. Pour X raisons, maintenant qu'on va pas déballer. Mais tout ça, c'est sale, en fait. Et forcément, quand on sort le linge sale, malheureusement, on ne peut pas s'attendre à grand chose.
Juste un mot, je voulais dire un mot, moi, de la Slovénie, parce que plus tu parles de petits pays. Voilà un petit pays que moi je connais bien. Exactement. pour le ski et le cyclisme, parce qu'ils ont même Pogacar et Roglic
et eux
ils sont en train de faire un très bon euro à leur niveau.
Pression, sans pression, exactement.
Ouais, ils jouent en Angleterre.
Attends,
c'est pas terminé. Milo. Doncic. C'est l'un des plus grands joueurs de basket. Vous battez le Danemark, vous avez 4 points, vous passez, Milo. Tout est possible. Donc voilà.
Ah oui, large.
La Serbie n'est pas.
Et en revanche, c'est un groupe où tu peux avoir les trois équipes à 2 points derrière l'Angleterre. Tu peux avoir un deuxième qui va passer avec 2 points, alors qu'ailleurs, avec 3 points, tu passeras peut-être pas.
Je rappelle également sur le terrain plutôt géopolitique que la fédération serbe, je passe à Suzy Samilo, est en colère.
Ouais, carrément.
Lors du match d'hier soir, Albanie-Croatie, des supporters des deux équipes ont lancé des chants anti-serbes.
Ouais.
Tuer les Serbes, tout simplement.
Ah oui, quand même.
Scandale à l'unisson, c'est assez direct. La fédération serbe a dit c'est scandaleux, nous demandons des sanctions à l'UEFA. Si elle ne les punit pas, nous réfléchirons à la manière dont nous procéderons, quitte à ne pas continuer la compétition. Voilà où on en est. Gros coup de pression de la fédération serbe. On va voir ce qu'on fait.
Moi, je crois pas trop.
Bien sûr.
Je pense qu'ils vont finir. Ils vont essayer. Si ils se qualifient, ils vont dire vous avez vu qu'on peut y arriver, etc. Donc moi, je pense c'était juste une petite picousse de rappel. Mais voilà, je pense qu'ils vont continuer. Mais franchement, je m'attends à rien. Ça, voilà, faut pas. Il y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi se taper la tige contre un radiateur, pour être plus filtré. Moi, je m'attends à rien du tout d'eux. Okay. Et c'est pas eux qui vont qui vont faire sauter de joie.
Merci beaucoup, Milo, d'être venu.
Je peux juste passer un big up.
Vas-y, bien sûr.
Voilà, je passe juste un big up à Alexandre Ruiz, parce qu'on a un groupe WhatsApp avec plusieurs amis avec lui, donc à Ruiz. Et j'aimerais aussi passer à 3 amis à moi, Nemanja Nemčo, à David et à Dian Stefanowski.
Très bien, c'est passé. Voilà, Milo, merci. Tu reviens quand tu veux. Tu pourras nous rappeler mardi soir après le match Danemark-Serbie. À très vite sur RMC dans un instant.
Je rectifie parce que j'ai parlé de Stéphane Kolarov.
Mais c'est pas le Bébé de Chaud.
C'est le
Bébé de Chaud. Kolarov, c'était.
Bébé de Chaud.
Oui,
donc depuis Stéphane.
Non, mais l'émission, c'était comment
Le
Bébé de Chaud.
Le Kolarov Chaud,
voilà, tout simplement.
Ah, il y en a eu plein.
Cocorico. Favier était dedans.
Cocorico Cowboy.
Jean Roucas était dedans aussi.
C'est ça.
Tout à fait. Et aussi.
Vous êtes allé sur des rêves que
Philippe Bruno. Qui est Philippe Bruno et sa femme.
C'est pas grave. Dans un instant, l'équipe de France.
Voilà, Brune.
Et également les dirigeants de CVC face au Sénat.
Très bien.
Avec un extrait savoureux à vous proposer. Restez avec nous, à tout de suite, c'est RMC.
RMC, l'after foot intégral euro.